Bonjour et bienvenue au Bulletin Azur épisode 11. Nous sommes aujourd'hui le 2 octobre pour enregistrer ce nouvel épisode dans lequel nous espérons mettre un petit peu moins de news et un peu plus de démos. Le Bulletin Azur, adresse de référence AKMS/lebulletinazur. Les annonces sont également faites sur le Twitter de Windows Azure France, @WindowsAzureFR. Et vous pouvez également nous écrire @Pierre Cou, @TomComté, @Benjguin, @Benjmou. Et voilà. Donc, Pierre, comment t'appelles-tu? Bonjour.
Eh ben, je suis le remplacement de Benjamin aujourd'hui. Je m'appelle Pierre.
D'accord. Et toi, Thomas?
Moi, je suis un Benjamin, mais je m'appelle
Thomas aujourd'hui. Non, Blaise aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai que c'était Blaise la dernière fois.
Bon, moi, je suis le Benjamin de service.
Voilà. C'est toujours moi, Benjamin.
Très bien. Les épisodes de Cloud Cover Show depuis la dernière fois, il n'y en a qu'un. Épisode 90, et on va parler de la même chose d'ailleurs. Windows Azure Websites. Update avec, mais pas avec les mêmes démos et tout. Donc,
non, tout, voilà, tout différent.
Voilà, la même chose, mais en French.
Exactement. De France.
Les actualités locales d'abord. Donc, vous pouvez toujours aller sur le blog Windows Azure France, où il y a tout un tas d'événements. Il y a, pour rappel également, le hub d'événements développeurs MSDN France, qui est à AKMS HubDev FR 2012. Et dedans, on trouve entre autres une soirée que tu vas pouvoir nous raconter, Pierre, le 26 septembre dernier, avec The Cloud.
Oui, ben, on a eu une grande soirée consacrée à, en gros, comment faire des choses autour de Azure avec d'autres techniques de déploiement. Ouais. Donc, notamment, on avait les gens d'Aspectize qui ont une technique de rapatriement dynamique d'assembly depuis le storage et qui vont exécuter directement.
D'accord.
Et puis, quelques grandes discussions sur website ou bien cloud services pour les applications ASP.NET classiques.
D'accord. Bon, merci à Aymeric et Wilfried d'avoir organisé, comme toujours, de m'admettre cette session de The Cloud. On a également démarré les tutos live Windows Azure. Pierre, peux-tu nous en parler?
Et ben, on a eu la première il y a quelques jours. Ouais. Donc, c'est 20 minutes. On s'était dit, en général, on a déjà commencé à déborder. Donc, Je pense que ça va continuer. Et on prend un sujet et on décortique ensemble. On fait des démos, on écoute vos questions, on répond. On envoie des goodies si les questions sont marrantes. Enfin, voilà. Donc, on va le relayer un petit peu partout, notamment sur le site du Zéro. Donc, suivez un petit peu l'actualité et vous les verrez en direct, on espère.
Voilà, très bien. Je vous montrerai dans les news les prochaines dates. Open World Forum, Thomas.
Open World Forum du 10 au 11, 10, 11, 12, 13 en fait, hein, donc dans pas longtemps. Donc
octobre.
Grand octobre, ouais, ouais. De ce mois-ci de maintenant, là, voilà, 2012. Donc grande messe autour de l'open source, des solutions libres, des logiciels libres, auxquels Microsoft sera présent, avec une keynote, un stand. Sur lequel il y aura des gens type Pierre, type moi.
Moi je fais deux sessions, donc je ne serai pas
deux sessions
sur le stand,
Pierre, voilà. Ok. Donc si vous avez des projets autour de solutions Azure qui tourneraient sur d'autres choses que du .NET, on sera là pour en discuter par exemple. Et,
très bien. Voilà. Impeccable. Nouvelle globale. Alors, voyons de quoi il s'agit. Alors d'abord une petite vidéo. Qui est sur le blog de Windows Azure France. Et donc, en fait, la particularité de cette démo, c'est qu'elle a été faite donc avec Golem, qui a utilisé Windows Azure. Et donc, la particularité, c'est qu'il y a 5500 soldats dans cette scène qui sont en train de, d'être animés en même temps, et, puisque c'est une des spécialités de Golem.
Ouais.
Ah oui, la modélisation de foule en
tout
particulier.
Fait, exactement.
Et donc, ils se sont appuyés sur des ressources Azure pour faire cette vidéo.
Donc là, juste si vous intéressez, ça peut te creuser. Hein, donc Golem, leur logiciel, c'est un add-on à Renderman qui est spécialisé dans le rendering de foule. Mmh. Renderman, c'est le logiciel de Pixar qui effectue le rendering à proprement parler. Le tout tourne dans Azure via un partenaire qui s'appelle GreenButton. GreenButton qui est spécialisé dans
le bouton vert.
Le bouton vert, un gros GreenButton, on appuie dessus. Et leur idée, c'est de prendre des logiciels qui sont facilement parallélisables ou hautement parallélisables, typiquement voilà, du rendering 3D, et de les distribuer sur Azure pour faire des workloads, pouvoir très rapidement démarrer sans VM, faire ce type de rendering et puis après ne payer que le temps qu'on a besoin pour effectuer le travail.
Très bien. Tuto Live Windows Azure, donc on n'y revient pas, si ce n'est pour les prochaines dates qui sont tout en bas. Donc, prochaine date, 24 octobre. Après, bon, il y a les transferts en Azure et puis il y aura les autres dates, 12 décembre et 31 janvier. Blog post de comment migrer votre blog WordPress sur Windows Azure Websites par Jérôme Lambert. J'ai bien aimé ce blog post en particulier puisqu'il montre comment faire ça en français. Donc il explique comment mettre le pack de langue,
français.
Et on voit effectivement qu'après son WordPress est en français. C'est ce que vous souhaitez exporter par exemple ici.
Quand on instancie le WordPress, il est en anglais. Quand on instancie la version toute faite qui est en website.
Exact. Un livre blanc sur SharePoint, le déploiement de SharePoint dans Windows Azure Virtual Machine. Donc, c'est ce livre blanc-là. Ça montre le comment un petit peu, mais aussi pas mal le pourquoi. C'est assez intéressant. Bon, il y a des rappels un peu rapides. Et puis également, après, différentes architectures.
Ça présente en fait les scénarios. Typiquement, le scénario poste de développement VM de développement distante.
Voilà.
Site intranet déployé dans Azure, donc avec VPN, configuration sur une machine simple, configuration en ferme. Alors effectivement, c'est plus un ensemble de pointeurs, parce qu'après, il y a pas mal d'instructions à suivre pour bien tout faire. Mais c'est un super point de départ.
Et ça reprend l'essentiel des infos qu'on a aussi dans le training kit pour montrer comment faire, en fait. Donc voilà. Ensuite, nous avons un autre blog post qui montre, on a deux comme ça en fait, qui montre un peu les différents choix qu'on peut avoir. Et donc là, c'est comment est-ce que je peux stocker, quels sont les différents outils que je peux utiliser pour accéder au storage Windows Azure. Donc en fait, il montre différents outils disponibles et quelles sont leurs fonctionnalités, leurs points forts, leurs points faibles. Et après, il a fait un tableau avec des notes et tout. Donc si vous voulez vous faire une idée sur est-ce qu'il faut prendre quelque chose de gratuit, payant, vous pouvez aller regarder ce blog post qui est assez bien fait. Un autre qui est, alors là c'est plutôt sur où est-ce que je vais stocker mes données. Et donc, il y a tout un tas de possibilités. Donc, les bases de données relationnelles, ça commence comme ça, avec MySQL. Différentes possibilités, MySQL aussi dans une machine virtuelle Linux. SQL Database, SQL Server dans une VM. Et puis après, les éléments plutôt NoSQL. Donc, on va avoir Azure Table Storage, évidemment. Mais également MongoDB, CouchDB, BigCouch, Cassandra.
Il y a du choix.
Voilà, un éventail assez intéressant pour se faire une idée de ce qu'on peut faire sur Windows Azure et où mettre ses billes. Windows Azure GuestOS Deprecation. Ça t'intéresse d'en parler, Pierre ?
Oui, alors c'est pas très compliqué. Vous savez, quand on déploie aujourd'hui dans Azure un cloud service, on peut soit figer sa version de l'OS, soit dire je veux être mis à jour régulièrement. Donc nous, on préconise depuis toujours de faire la mise à jour automatique parce que c'est une des valeurs apportées par le pass.
Comme ici, là.
Si jamais vous avez figé des versions d'OS dans le passé et que ces versions sont antérieures à, je crois que c'est février ou mars 2012, vous avez dû recevoir fin août un premier mail vous disant « Attention, on va faire la migration de ces vieux OS vers la dernière version. » Vous avez dû recevoir il y a quelques jours un deuxième mail vous disant « Rappel, c'est en train d'arriver et le 3 octobre, la migration a eu lieu. » Donc, enfin, ou aura lieu puisqu'on l'enregistre le 2, mais simplement pour vous prévenir de surveiller vos comptes sur lesquels on fait passer toutes les informations importantes en termes de support et de nouveautés ou d'évolution, puisque c'est là que les informations sont redirigées pour ce type de situation.
Donc, voilà. Une vidéo qui montre Windows Azure Mobile Services. L'intérêt de la deuxième partie de cette vidéo, elle montre une application exemple qui s'appelle Dotoo, une to-do list en fait. Donc elle est assez intéressante de ce point de vue-là. Vous pouvez télécharger cet exemple. Également sur Windows Azure Mobile Services, un SDK sur GitHub avec Xamarin pour pouvoir développer des applications iOS, Android, etc. en C#. Regardez ici, c'est pas la seule option. On va avoir également le support en natif de iOS et d'Android, mais il y a également cette option qui est disponible.
Oui, donc il y a deux choses là-dessus. Il y a le SDK actuel qui est publié sur GitHub et il y a l'annonce par Xamarin qui vont publier deux SDK supplémentaires, effectivement, qui sont à raccorder à Monotouch et à Monodroid, leur solution pour développer sur ces plateformes mobiles en C#.
Et enfin, dernière nouvelle avant de passer à la démo liée à ça, il y a eu des great improvements à Windows Azure Websites. Donc voilà. Donc très bien. Je vous propose de passer aux démos. Si je retrouve le
PowerPoint qui s'est bien caché. Hein.
Celui-ci, c'est celui-ci que je cherche.
Bravo.
Voilà, du premier coup. Donc, Windows Azure, Websites, qu'est-ce qu'on va voir? Le nouveau mode shared. Alors, on va mettre sur ton écran.
Voilà.
Les entrées DNS de type CNAMEA, les créés d'identité de déploiement.
Yes.
Et quelques exemples de mise en œuvre également. Donc, je bascule sur le poste de Thomas.
Super. Donc, voilà, on va faire le tour rapidement des nouveautés dans Azure Websites. Donc, le blog, effectivement, de référence sur le sujet, c'est chez M. Scott Guthrie, hein, qui donc nous présente les nouveautés. Donc, un nouveau mode de facturation, on va dire, d'hébergement, qui est le mode partagé, le mode shared. On va revoir tout ça rapidement. Le support pour les domaines custom, donc www.mondomaine.com. Et puis l'intégration avec GitHub.
D'accord. Mais quel domaine veux-tu nous montrer ?
Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir ? D'abord, on va aller rapidement s'orienter comment on crée un Azure Website. On va faire un quick create et on va appeler ça mon test. Donc, autant dire que c'est super rapide.
Alors, à remarquer qu'on a changé un petit peu d'ailleurs le Nuke. Maintenant, on l'organise par grandes catégories. Avant, vous aviez tout à plat. Et maintenant, on a compute d'un côté, data de l'autre, etc., etc.
Donc, quand je crée...
Ça permet d'en rajouter des tonnes.
C'est le but.
C'est le but. Il va y en avoir des tonnes. Quand je crée un site, en quelques secondes, là, mon site est disponible. Quand je clique dessus, bon, je vois pour l'instant sur activité, il n'y a pas grand-chose. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir dans Scale. Il y a eu un pic à l'instant, là, bizarrement. Et dans Scale, la nouveauté, c'était qu'on a maintenant Free, Shared et Reserved. D'accord. Donc Free, c'est le mode par défaut. Vous êtes dans une configuration qui est gratuite. Ça, c'est pas payant, mais c'est limité dans le sens où on a droit qu'à 165 mégas de bande passante sortante avant que le site soit gelé. D'accord. Donc c'est bien pour du développement ou alors des sites vraiment très très peu consultés ou alors sur lesquels il n'y a rien éventuellement.
Oui, aussi.
Ça peut le faire.
Et tous les sites d'API, hein, 165 alors, mégas, ça fait beaucoup
de trafic sortant pour une API. Voilà. Alors c'est vrai que si je lance une appli Windows 8, une appli mobile qui doit faire quelques appels XML, ça peut le faire. Si je veux aller plus loin, alors avant j'étais obligé de passer sur les instances réservées, maintenant j'ai la possibilité de passer en shared.
Le mode pas cher,
et en plus c'est très très simple, c'est-à-dire que mon site il a démarré en free, je clique sur share, je fais save. Il me prévient que faire ça risque de me coûter de l'argent. Alors pourquoi ? Parce que là je vais passer dans un mode où la bande passante sera payante. Ouais. Donc on peut aller voir le pricing après, hein, mais je suis facturé au giga téléchargé finalement, sachant que le giga entrant est gratuit. Donc on me prévient que ça peut vraiment me coûter de l'argent et je dis yes. Et là il va prendre mon site web tel quel, il va le migrer sur des instances partagées. D'accord, sur lequel j'ai la capacité d'aller plus loin en termes de montée en charge.
Je ne sais pas s'il fait une migration d'ailleurs, parce que c'est le même principe sur la partie free ou shared techniquement, contrairement à shared ou reserved.
Oui, mais comme il va autoriser d'avoir des custom domain name, il est possible que ce soit une firme distincte.
Avec des droits différents.
Ouais.
Une fois que j'ai fait ça, d'accord, la nouveauté que je vais avoir sous la main, c'est la possibilité de gérer mes domaines. D'accord. Donc je vais aller voir ça juste après. D'accord. Mais donc en free, j'ai pas le droit de mettre de domaine custom. Par contre, en shared, je peux le faire.
Enfin, si on le fait, en fait, on obtient une 404 quand on essaye.
Voilà. Je peux pas faire www.mondomaine.com, clairement. Oui. Donc ça aussi, c'est comme une limitation du free. Hein. C'est forcément toto.azurewebsites.net. Il faut quand même le noter.
Ça peut être autre chose que Toto.
Oui, ou Tiki peut-être. Mais ensuite. Si je veux aller plus loin que mon shared et si je veux vraiment avoir la main sur la capacité d'hébergement, je passe en reserved et là je peux choisir carrément le type d'instance que je veux mettre en œuvre et puis le nombre d'instances. Et donc là j'ai une VM à moi, je choisis si je veux deux corps. Donc je peux aller loin, je peux partir de tout petit gratuit jusqu'au partagé, jusqu'au mode vraiment hébergé sur des ressources qui me sont dédiées. Alors ça c'était le mode shared. Juste une toute petite détour par le pricing qui est là. Donc dans la page de Windows Azure Pricing qu'on atteint en cliquant sur pricing là-haut, on a donc les prix des websites qui incluent donc le free qui est free, le shared. Ici on voit que pour un site ça va me coûter 6,64€ pendant la preview parce que une petite ristourne après ça sera de l'ordre de 10€ je pense. Et après, on a le prix des reserved qui sont donc les prix finalement des VM. Hein. On se trouve à une VM, la small est à 40€. Voilà. Donc ça permet de voir un peu les différents types de prix qu'on a. Ensuite, donc, la deuxième chose auquel on a droit, maintenant que j'ai un site, je peux aller sur mon site à moi qui est là, qui s'appelle Caméra C64, j'ai le droit d'aller configurer des noms de domaine.
Je ne demande rien.
Donc, par défaut, le nom de domaine auquel qui m'est alloué, c'est cameraC64.azurewebsites.net. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est... Non, c'était pas pris, bizarrement. Moi, ce que je veux, c'est www.cameraC64.com parce que je veux quand même un beau domaine pour oui. accueillir les gens. Mmh. Et puis, je veux également, si possible, avoir cameraC64.com tout court parce que les gens tapent souvent pas le www pour aller plus vite. Ouais. D'accord. Donc, la subtilité avec ça, au niveau de la gestion de domaine, c'est quoi? C'est que pour le www, cameraC64.com, c'est facile. Ça s'appelle un CNAME. Ouais. Voilà, autrement dit un alias. Donc je vais aller rapidement vous montrer dans ma super interface de gestion de DNS qui est BookMyName. Bon, je n'ai pas d'action chez eux, donc c'est juste que c'est les moins chers que j'ai trouvé. pour. non, mais c'est un critère. pour faire pointer le www, donc c'est là que je gère mon domaine cameraC64.com. Pour faire pointer le www, je mets simplement un CNAME comme ça qui pointe sur cameraC64.azurewebsites.net.
D'accord.
Et c'est tout. Et c'est facile. Ça, c'est la partie simple. Après, pour cameraC64.com, donc là, il y a quelque chose qui nous échappe un peu, c'est que le DNS ne permet pas de mettre un CNAME sur le domaine tout nu. Mmh. D'accord, le domaine, le naked domain, donc le domaine cameraC64.com, on ne peut y associer qu'une adresse IP.
Ça n'a rien à voir avec Azure, c'est plus en lien avec Internet, en fait.
C'est Internet qui est comme ça, voilà. Donc, par contre, il est gentil, il vous met ici quelle est l'IP adresse à utiliser. Donc, vous avez l'IP adresse, il n'y a pas de souci. Et après, il faut simplement bien lire les instructions qui sont ici, car ça ne suffit pas de mettre l'enregistrement A pour le domaine. Il faut aussi ajouter un autre enregistrement qui sert à prouver que vous êtes propriétaire du domaine.
Mais tout le monde sait que c'est à toi, caméraC64.
Oui, sans doute, mais eux, visiblement, ils avaient besoin de confirmer la chose.
D'accord.
Donc, dans le DNS, on rajoute du coup deux choses. Le premier qui est plus pour l'autorisation, qui est ce CNAME-là. Donc, il ne sert à rien, il est utilisé par personne, c'est juste pour prouver à Azure que c'est bien moi qui habite là. Et ensuite, le AT, ça représente le domaine. Et le A, bah, c'est l'adresse IP que je viens de voir dans le portail. Bien. Et avec ça, ça pointe sur mon domaine. Et du coup, avec ça, eh bien, j'ai à la fois www.cameraC64.com, ici même, qui est le CNM, très très belle page. Et ensuite, caméra64 tout court. Qui marche. Alors du coup, c'est pas très spectaculaire, mais je scrolle un peu pour montrer le site. Voilà. Voilà pour les noms de domaine. Facile.
Et si tu le montres en azurewebsites.net, c'est aussi
Oui. Enfin, du coup, moi personnellement, je.
Il sait pas.
Je sais pas parce que je l'ai jamais vu rarement, mais.
J'ai
vu un truc là. Hop. Hop.
C'est notre jeu. On essaye de.
Hop. Hop.
Voilà.
Ah,
voilà.
Ah ben c'est le même. Voilà. Donc, il n'y a pas de trucage en fait.
C'est presque décevant.
Oui.
donc voilà pour les noms de domaine. Tout ça, il faut. Donc à partir du shared, on peut faire tout ça. Shared et reserved. Pas free.
Très bien.
Ok. Ensuite,
les crédits d'identité.
Voilà, parler des crédits d'identité. Alors les crédits d'identité.
C'est donc, login password hein,
oui,
pour les
voilà,
gens
pour
qui
les normaux qui.
Excusez-moi. Hein.
Alors pour ceux qui n'ont pas fait de latin, c'est voilà. Login password.
Donc, quand vous créez votre site web, alors je vais
peut-être.
je vais reprendre mon site web, mon test, là, que je viens de. Donc, que je n'ai jamais touché. Hein. Il m'a donné quoi par exemple, un URL FTP, n'est-ce pas? Et puis, il m'a donné un user, mon test / caméra664.
Ouais.
D'accord. Si je vais voir l'autre, là, mon petit test, par exemple.
Mon petit test, avec un autre site test, que mon test.
Voilà. Il y a mon petit test / caméra664.
Ah, c'est pas le même username.
Donc chaque site a bien son username.
Oui.
D'accord. La petite subtilité simplement, c'est que si vous utilisez cette fonctionnalité ici, Reset Deployment Credentials, dans le but de mettre un mot de passe, il vous dit bien qu'il va mettre le même mot de passe et le même user pour tous vos sites.
Ah,
pas pratique ça.
Oui.
Pas pratique. Et si je voulais donner le FTP à.
Si je suis une agence web, par exemple, et que je veux utiliser mon mode shared ou.
Je veux utiliser mon mode shared et avoir plusieurs clients, je ne vais quand même pas leur donner le même login mot de passe. Ça serait quand même bien embêtant.
Ou alors tu leur dis surtout, vous ne mettez pas site du voisin anti-slash caméra.
Sinon, mais en fait, il y a une autre solution, alors qui est un peu planquée, effectivement, qui est que là, on peut aller. Donc là, je suis revenu sur mon petit test. Je peux télécharger le Publish Profile et le sauver.
Prouve-le.
Hop, je le télécharge. Bon, je l'avais déjà téléchargé, donc j'en ai un deuxième, mais c'est pas grave. Je peux l'ouvrir. Il est assez lisible, comme vous pouvez le constater. Bah oui. Hein. Bon, d'accord. Mais si on décode bien le truc là, on voit qu'il y a plusieurs modes d'accès. Donc j'ai du
web. C'est de l'XML en blanc et noir.
Il est assez pervers pour installer Sublime Text sur un PC pour afficher. Voilà. Bon, je dis rien.
De l'XML en noir et blanc. Quoi.
Je ne dis rien.
Il faut que je sauve en XML si je veux avoir. Je peux le sauver en XML. Hein. Donc vous avez l'URL, le FTP, voilà. Ça c'est le même qui est dans le portail.
Qui est passé open source d'ailleurs, Sublime Text. Mais bah, passons.
Ouais, passons. Et là, j'ai un username qui est spécifique, donc qui n'est pas mon caméra 64 partagé, mais qui est, alors, qui est un drôle de tête, hein, ça paraît curieux comme ça, mais c'est la vérité. Donc je peux prendre cette URL FTP, je peux le coller dans mon client favori, qui est peut-être déjà fait pour, non ?
FileZilla en l'occurrence.
FileZilla en l'occurrence. Je peux prendre mon login ici, qui est donc spécifique à ce site web-là quand même. Ouais. Voilà. Et j'ai un mot de passe, alors qui est assez étonnant, on se dit...
C'est spécifique aussi.
Ça doit être un hash, etc. Non,
et en fait,
ce n'est pas hash, c'est vraiment un mot de passe. Donc difficile à retenir comme ça. Ouais. Et je peux me connecter avec ça. Donc ces credentials-là, je peux les donner à mes clients et ils sont différents pour chaque site.
Oui.
Voilà. Il faut
le
simplement,
mot de passe de l'autre site n'a rien à voir en fait.
N'a rien à voir, je pourrais le prouver, mais croyez-moi.
Ouais.
et donc ça permet d'avoir un accès différent pour chaque website. Et du coup, c'est sympa.
Très bien.
Voilà.
Voilà, je pense que maintenant Pierre va pouvoir nous montrer ce qu'on peut mettre dans Websites.
Oui, parce que
à moins que tu aies d'autres choses à dire, Thomas, pardon. Attends,
non, tu fais GitHub aussi.
Je peux. GitHub, ouais. Si tu mets mon écran sur la
Alors,
TV,
allez,
je vais vous parler de ça.
On est parti.
C'est ton écran, ça ?
Oui, c'est mon... c'est difficile à différencier. On faisait un peu la même chose, mais oui, c'est mon écran.
Bien.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Websites ? Alors, il y a des choses qui n'ont pas beaucoup changé. On peut toujours héberger trois technos en standard, qui sont .NET, PHP et Node.js. Alors, je vais commencer par la partie .NET, juste pour faire un tout petit warning. Donc, j'ai ici un truc qui s'appelle Demo ASP4, qui est un petit site web. Donc, si je vais bronzer, je découvre...
qui est en ASP.NET 4.
Qui est en ASP.NET 4. Voilà, je ne l'ai pas appelé ASP4 parce que j'ai foiré les trois premières démos. c'est pour insister sur le fait que c'est sur la version 4 du framework. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Parce que, donc c'est pareil, hein, vous retournez dans le portail. Ici, vous allez récupérer le Publish Profile si vous en avez besoin. Vous l'importez dans Visual Studio ou dans WebMetrics et puis vous pouvez déployer automatiquement. La partie importante, c'est que quand vous allez publier ensuite ici, ça va marcher tout seul, sauf dans un cas. C'est lorsque vous êtes en .NET 4.5, qui n'est pas aujourd'hui déployé sur les websites. Il devrait l'être d'ici, allez, on va être pessimiste, c'est-à-dire 2 mois. Ça sera rapide. Et donc d'ici quelques semaines, vous pourrez effectivement utiliser Visual Studio et .NET 4.5 pour faire tous vos déploiements. Aujourd'hui, sur website, c'est juste .NET 4.
Voilà. Si là, tu auras eu le temps de foirer 44 démos.
Il va falloir que je trouve effectivement 41 démos supplémentaires à foirer. Donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur la partie ASP.NET. Ça marche tout seul, ça gère automatiquement la reconfiguration de tous les éléments dont vous avez besoin et c'est directement intégré à Visual Studio, donc c'est une expérience qui est familière à tout le monde.
Et le déploiement depuis Visual Studio prend en compte entre autres les chaînes de connexion, etc. Enfin c'est assez bien fait.
Oui, donc ensuite je vais maintenant basculer sur la partie Node. Alors sur la partie Node, je vais créer un nouveau site. Tout à fait. Donc je vais faire un site absolument vide. Site absolument. Je crois que je suis limité à 7 caractères, à 16 caractères dans les alias.
Site vide.
Site vide, je pense que c'est libre.
Site vide.
Et donc lorsque vous avez un site vide ici, je vais m'intéresser aux techniques de déploiement que je peux utiliser dessus. Alors il y a en gros, si vous allez jeter un œil. Ah oui, c'est très efficace pour rien faire, c'est un truc. Mais même les sites pleins, ça va assez vite. Et ici, vous voyez donc la partie TFS sur laquelle je ne reviens pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la partie Git, puisqu'en général, Node est souvent associé à GitHub aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc, quand j'ai cliqué sur utiliser du Git, il m'a créé automatiquement un repo Git. Donc, je peux pousser mon code directement dans un référentiel de code source qui existe dans Azure. Et une des petites nouveautés là-dessus, c'est que j'ai la possibilité d'aller indiquer, si je le souhaite, la branche sur laquelle je désire déployer. Donc, ce que vous pouvez faire très facilement dans Websites, c'est avoir deux branches, une branche dev et une branche master. Mm-hmm. Et vous allez pousser sur la branche dev pour faire de l'intégration continue. Et vous pousserez sur la branche master lorsque vous êtes content. Donc ça, c'est une technique où je déploie directement depuis mon environnement Git vers celui d'Azure.
Alors, sur tes branches, elles sont, c'est tes branches locales, en fait, sur ton...
Non, c'est les branches du repository Git distant.
D'accord.
Mais en fait, quand on pousse, on spécifie sur quelle branche on veut pousser.
D'accord. Et donc, lui, il a ces deux branches-là. Et qu'est-ce qu'il fait après?
Quand on crée un nouveau site, on spécifie la branche sur laquelle on veut s'installer.
Ça y est, j'ai compris. Parce que je ne voyais pas comment est-ce que tu allais avoir ta branche dev et ta branche prod dans le même site.
Non, c'est deux sites.
L'idée, c'est d'avoir deux sites différents. Ouais, tu peux avoir un site free pour l'intégration et un shared pour prod.
D'accord, voilà. Et donc ensuite, on a CodePlex et GitHub. Donc je vais vous montrer GitHub puisque c'est celui qui est très utilisé avec Node. C'est pas très compliqué. Vous allez passer par une fenêtre d'autorisation qui va vous demander un droit d'accès à GitHub. Mm-hmm. Donc, dans mon cas, je suis déjà logué sur GitHub. Du coup, mon username Pierre Coup est automatiquement repéré. On regarde la liste des projets que j'ai dans GitHub. Et je vais prendre Jukebox ici, par exemple. Donc, vous voyez ici toute la liste des projets. Et je valide. Quand je fais ça, il se passe une opération toute bête. On va, depuis Azure, demander à GitHub de nous recontacter. Mm-hmm. Et donc, chaque fois que vous allez pousser quelque chose dans GitHub, Azure va être recontacté et donc va pouvoir déclencher une mise à jour.
Et c'est GitHub qui le fait.
La mise à jour est faite par mon repository Git Azure, mais il a été prévenu par GitHub qu'il y avait quelque chose à faire.
Très bien.
Et donc si je retourne par exemple sur un endroit où j'ai déjà déployé cette chose-là, qui s'appelle le test node ici, vous voyez ici la liste des déploiements qui ont déjà eu lieu. Donc naturellement, comme c'est un système par notification, chaque fois que j'ai une modification, et donc vous voyez ici, donc j'ai fait ça pendant le startup weekend du 23 septembre, et ce matin, j'ai fait une minuscule modification avant de venir. La modification se déclenche en quelques secondes. Il se trouve juste que ce projet Git, ce projet Node est relativement gourmand, il est gros, donc le premier déploiement est un peu long, ensuite ça va très vite.
Mmh. On voit le début de hash là, des commits, effectivement.
Ouais. Voilà, et puis vous avez ici les différentes
caractéristiques de Git.
Voilà. Et vous pouvez, naturellement, puisqu'on est versionné, faire un rollback sur n'importe quelle version antérieure si vous vous rendez compte qu'il ne fallait pas pousser sur master. Voilà, donc voilà pour la partie Git. Un élément important, mais je vais en parler juste après sur PHP, Node a une tendance à évoluer très souvent en version.
Oui.
Très souvent. Et PHP, c'est moins fréquent, mais on est en pleine période d'évolution là-dessus puisqu'on est en train de passer de PHP 5.3 à PHP 5.4. Donc je l'ai fait sur PHP parce que ce sera plus utile aux gens au quotidien de le voir sur PHP, mais on peut faire la même chose sur Node. Et du coup, je vais revenir sur un nouveau projet que j'ai créé et qui s'appelle Demo PHP LBA. Donc c'est un site absolument extraordinaire. Je pourrais l'ouvrir avec WebMatrix. Donc vous cliquez et puis il va automatiquement récupérer le projet et vous l'ouvrir. Je l'ai déjà fait, donc je vais vous le montrer. Il est là. Voilà mon site. Il est beau, hein. Et donc il dit quelle est la version de PHP qui est en train de tourner. Et on va ici tout simplement aller naviguer sur ce site. Et pour une des démos les plus éblouissantes de la journée, 5.3.13. Version.
Ça scotch.
Voilà. Ça, c'est la version qui est déployée automatiquement par Microsoft sur Azure Websites. Si elle ne vous convient pas, si par exemple vous avez besoin de resetter votre application sur PHP 5.4, qu'est-ce que vous allez faire? Mais il n'y a pas de c'est pas des choses très compliquées. Vous allez trouver PHP 5.4. Donc, si vous allez faire un tour sur windows.php.net, vous allez tomber sur toutes les releases dans les downloads ici. Donc, aujourd'hui, on en est à la version 5.4.7. Mm-hmm. Vous allez récupérer la version pour VC9 non-thread safe. C'est facile, c'est la première qui est proposée. Mm-hmm. Et vous allez jeter ça.
C'est celle-là que j'aurais voulu, moi.
Ouais, voilà, non-thread safe, c'est rassurant, ça.
J'ai pas le temps pour cette explication-là, mais il y a de très bonnes raisons derrière.
Non, puis VC9 aussi, c'est bien.
Voilà. Vous prenez ensuite votre site. Alors, vous pouvez y accéder. Donc, moi, je l'ai ouvert dans WebMatrix. Mm-hmm. Vous pouvez également, comme tout à l'heure, filer dans FileZilla et puis l'ouvrir. Et vous allez tout simplement jeter votre nouveau binaire PHP dans le site. Pas n'importe où. Vous allez le mettre dans le répertoire bin. Pour une petite raison toute bête, c'est que ce répertoire est protégé par IIS. Vous êtes dans l'arborescence du site, donc vous ne voulez pas que les binaires soient à plat. Voilà, donc vous créez un répertoire bin s'il n'existe pas et vous jetez ce que vous voulez là-dedans.
D'accord.
Ce répertoire bin, ensuite, on va l'exploiter et on va demander à Azure de prendre en compte un nouveau runtime pour certaines extensions de fichiers. Mm-hmm. Alors, ce nouveau runtime, on va le voir sur la partie configuration de mon site.
D'accord.
Et donc, si je descends tout en bas, je vois apparaître ici les mappings. Donc ça, c'est nouveau. Ça vous permet de dire, je voudrais que mes mappings soient redirigés vers... Alors, quel est le processeur que je désire utiliser?
Bah, si je regarde un petit peu sur mon site ici, je vois que j'ai un php-cgi.exe qui vit dans le répertoire bin.
Ouais.
Ça ne me donne pas son chemin absolu. Mm-hmm. Donc son chemin absolu, il est fixé. Et c'est d-home site www-root. Voilà, ça c'est magique, donc à savoir, à retrouver. Et tous les sites que vous déployez par Azure Website sont toujours dans d-home site www-root. Quel que soit, voilà. Donc ici j'ai repris juste /bin/phpcgi.exe. Je retourne ici, insérer cette information.
Et ton cgi.exe, il vient d'où par rapport à ce que tu nous as montré comme
c'est
téléchargement
le, c'est le binaire. Dans mon zip, j'ai ça.
Ah, donc tu as dézippé et ensuite
j'ai dézippé et j'ai jeté
dans
directement
bin, t'as mis tout bin. Le contenu du zip.
Oui.
T'as pas mis le zip.
Non. j'ai pas essayé ça. voilà. Deuxième petit piège, il faut cliquer sur save.
Ah oui. Sinon ça reste violet.
Et... Sinon voilà. Et ensuite, bah, c'est fait.
Bon,
donc,
ta couleur.
Non, je vais faire bronze. Et là, si je suis dans mon ancienne version, je vais rester en 5.3.13. Et du coup, je vais aller mettre un petit coup de pied discret à mon... J'affiche que je suis bon ici. Je vais mettre un petit coup de pied discret à mon site. Donc, il est où? C'est mon site démo PHP LBA qui est là. Donc, mettre un coup de pied, c'est pas très compliqué. Hein. On a un stop, on a un start. Et si j'ai raté aucune phase de ma démonstration et que je retourne là-dessus... je verrai 5.4 apparaître. Donc je suis désolé pour le petit échec là-dessus, mais vous voyez 5.4.
Ouais, ouais.
Regardez-moi bien, vous voyez 5.4.7.
Ah ouais.
C'est bon, tout le monde l'a vu ?
Ouais, ouais, je vois.
Alors, autre chose qui est intéressante, parce que ça, c'est pas suffisant pour manipuler son PHP. On veut souvent la main sur le PHP.ini. Alors on le veut dans deux situations possibles. Soit on dit je veux modifier le php.ini de mon PHP à moi, et là on y a accès si on le souhaite. Soit on dit mais moi je veux garder PHP 5.3.13, ça me va très bien, mais je veux par exemple modifier la limite d'upload parce que par défaut elle est fixée à 2 mégas, et si je télécharge par exemple des photos, j'ai besoin de plus de 2 mégas. Alors il faut savoir que depuis les versions récentes de PHP, donc 5.3 quelque chose, on a la possibilité d'avoir des fichiers ini par utilisateur entre guillemets. Alors, c'est un terme un peu bizarre puisqu'on est sur un serveur. Et du coup la technique est extrêmement simple. Vous retournez ici sur votre site, que vous ayez ou pas d'ailleurs un runtime spécifique, vous ajoutez un nouveau fichier texte que vous appelez .user.ini, et ça il sera à la racine de votre site et il contient les paramètres distincts que vous voulez rajouter pour votre php.ini. Donc c'est le format d'un php.ini, vous y mettez ce que vous voulez et la machine a beau mutualiser les environnements PHP de plein de sites différents, chacun a son propre php.ini qui est déduit de ce .user.ini. Donc voilà un petit peu les grandes techniques de manipulation et de mise à disposition. Donc en termes de déploiement, on a vu effectivement GitHub, TFS, CodePlex, FTP, WebDeploy. Donc on a quand même un large éventail. FTP et WebDeploy n'ont pas de version côté serveur. Les autres gardent un historique des versions. Et côté runtime, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la main sur les runtime. Alors pas seulement pour une mise à jour. Si vous voulez faire tourner Python au hasard, il vous suffit d'embarquer l'exe face CGI pour Python et de faire le même type de mapping que ce qu'on a vu là. Et naturellement, on garde l'accès web.config si on veut gérer des routes, de façon à ce que ce soit pas étoile.php de façon bête, mais qu'on redirige les requêtes normales vers le handler PHP.
D'accord.
Voilà en quelques mots la petite galaxie qui est autour de website aujourd'hui. Et donc concrètement, ça nous donne un environnement, typiquement les exemples là que j'ai pris, c'est des choses que j'ai faites le week-end dernier pour des startups qui se montaient en 54 heures. Ça commence le vendredi soir, ça finit le dimanche.
Oui.
Vers le dimanche matin, et les gens commencent à paniquer en disant « Mais si je veux faire la démo tout à l'heure, où est-ce que je mets mon site ?» Et donc, on a monté comme ça en rafale de la ASP.NET. Il y avait des gars qui développaient en Razor dans WebMetrics, du Node. L'appli que j'ai là, c'est l'appli qui a été développée pendant ce week-end. Et puis, un site vitrine qui était basé sur du WordPress et qui était en PHP. Et eux, ils sont passés par FTP. Donc, ça permet d'avoir immédiatement un résultat, de le tester immédiatement et d'être en intégration continue. Ce qui, quand on développe sur une durée courte, est indispensable.
Oui. Tout à fait.
Voilà mon petit tour de ces fonctionnalités du monde des websites.
Eh bien, très bien, super. Très intéressant.
Bravo.
Est-ce que tu veux que je te rende
Si c'est juste pour afficher la slide de fin qui dit ça y est, c'est fini, non, ça ne va pas. Je pense qu'on va faire comme ça.
Bon,
donc, merci bien. Et merci bravo bien. Pour les démos.
Et on se revoit dans un petit mois.
Exactement.
Avec plein de nouveautés.
Avec voilà. plein de nouveautés.
Super.
On a également des petits événements qui vont arriver, on en reparlera. Mais ouais. fin novembre, on va beaucoup parler de Infra as a Service.
Exactement.
Donc on vous en retouche un mot au prochain bulletin, mais notez-le tout de suite.
Vers fin novembre, vers le 28 à peu près. Dans les alentours.
Voilà. Merci à tous.
Très bien, merci,
merci
au revoir.
Beaucoup, au revoir.